Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bienvenue à l'émission Entre les âges. C'est une émission qui traite de musique classique, de musique voisine et surtout de rapports entre les générations dans le monde artistique. Cette émission est présentée par François-Xavier Poisat et aujourd'hui nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir Guillaume Herzberger. Guillaume, bonjour.
Bonjour François-Xavier.
Alors vous êtes pianiste et vous avez de nombreuses casquettes, on va découvrir tout ça, vous nous parlerez de vos nombreuses activités, de votre parcours. Mais tout de suite, quoi de plus normal que de vous présenter au piano? Donc nous écoutons tout de suite un extrait de la deuxième ballade opus 10 de Johannes Brahms, qui est un de vos compositeurs favoris, c'est vous qui jouez, Guillaume Herzberger, on écoute.
Thank you.
Radio Cité Genève.
C'était la deuxième balade opus 10 de Johannes Brahms, un des compositeurs favoris de Guillaume Herzberger, pianiste, qui est aujourd'hui notre invité. Alors, Guillaume, bonjour.
Bonjour, quelle drôle d'idée d'avoir décidé de m'inviter ici à Genève pour parler un peu de moi et de ce que je fais.
Eh ben, c'est dans une forme de solidarité intercantonale tout à fait à propos en ces temps de crise. Guillaume, est-ce que vous voulez nous présenter un peu votre parcours de pianiste?
Mais très volontiers. Je disais drôle d'idée parce que c'est vrai que comme vaudois et comme pianiste, je suis normalement assez discret. Et on va dire qu'on va établir une forme de record. Hein, si vous m'interviewez une demi-heure, je crois qu'on va faire largement dépasser le compteur de mon record personnel. Mais allons-y. Mon parcours de pianiste, on va dire que la musique est quelque chose de tout à fait naturel dans la famille. Je suis le troisième d'une famille de quatre enfants et on a tous fait de la musique et on est encore deux à la pratiquer de manière professionnelle. Et on avait beaucoup d'occasions de jouer ensemble déjà quand on était enfant. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné le goût de la musique à plusieurs, le goût du partage par ce biais-là. J'ai fait mes premières notes au piano avec Denise Rich au Conservatoire de Lausanne. Et ensuite, j'ai suivi l'enseignement de Christian Favre. Puis par la suite, je suis parti à Zurich pour suivre l'enseignement de Ulrich Keller pour la musique de chambre et l'accompagnement du lied. Depuis maintenant quelques années, bien quelques années, j'enseigne à Puy dans une petite école, j'enseigne au Conservatoire de Lausanne. L'enseignement est véritablement devenu ma principale activité, ou en tout cas celle qui m'occupe le plus au niveau de l'énergie. Et je m'efforce de maintenir aussi une activité de concertiste, principalement en formation de musique de chambre. Et parallèlement à cela, et aussi à la base dans un but pédagogique sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, j'ai commencé à organiser des concerts et je suis maintenant à la direction artistique de deux festivals dans la région lausannoise.
Eh bien, nous reviendrons là-dessus plus en détail, mais restons d'abord avec la musique de chambre. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut faire dans un petit espace avec les amis qu'on a à disposition sur le moment. Et il faut une forme de, à la fois de fair play pour ne pas tirer la couverture à soi. Il faut aider toujours l'autre à se mettre en valeur. Il faut savoir passer par-dessous quand c'est nécessaire, prendre la place quand les circonstances l'exigent. Donc c'est beaucoup une relation humaine, en fait, la musique de chambre pour moi.
On parle bien de musique, on est d'accord.
Absolument.
Alors vous avez un duo constitué avec un clarinettiste qui s'appelle Davide Bandieri et vous venez de sortir un enregistrement avec lui qui s'intitule L'Esprit des Six. Alors je crois savoir qu'il s'agit de six compositeurs qui ont grandement influencé l'histoire de la musique. Est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire?
Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment beaucoup d'enregistrements qui sont consacrés à la musique du groupe des Six, principalement à Poulenc, à Mio, à Honegger, un petit peu moins à Germaine Taillefer, ou à Georges Auric, ou à Louis Duret. Il se trouve qu'à la base, c'est d'abord la rencontre avec Davide Bandieri, clarinettiste, qui est premier clarinettiste solo à l'Orchestre de Chambre de Lausanne, et puis un concert partagé ensemble, avec également Marc-Antoine Bonanomi, contrebassiste. Et ensuite est venue cette idée d'enregistrer cette musique du groupe des Six, parce qu'il y a un certain répertoire pour clarinette et piano de ces compositeurs-là. Et puis petit à petit, en faisant ce travail, alors c'est peut-être pas la musique vers laquelle je suis le plus naturellement porté à la base, mais le fait de le faire justement entre amis et de découvrir des pièces qu'on n'aurait peut-être pas choisies en premier dans la bibliothèque, ça nous a ouvert vers ce fameux groupe des six qui a cette particularité que même s'il réunit six compositeurs, ils sont réunis non pas par une communauté de style, mais bien parce que en fait ils s'entendaient bien entre eux, ils se respectaient les uns les autres, ils étaient ouverts aux propositions des autres, ils acceptaient tout aussi bien de composer à six pour une partition ou bien simplement de présenter leur dernière création lors de rencontres très informelles en fait qui se déroulaient en général le samedi en fin de journée avant de partir faire la fête dans Paris. Et c'est un peu cet esprit-là qu'on a voulu retrouver avec ce disque qui en fait n'est pas un aboutissement en soi, mais plutôt le début d'une aventure. On espère pouvoir organiser plein de petits événements en accueillant divers autres musiciens ou des comédiens. Il y a beaucoup de littérature qui tourne autour de ces compositeurs-là. Ils avaient aussi la visite de Pablo Picasso. Donc il y a une manière en fait de pouvoir mélanger tout. De forme artistique, dans un esprit surtout très convivial, très très amical. C'est un petit peu ce qui me manque habituellement dans les rencontres avec musiciens, c'est ce respect, cette convivialité que vous prenez aussi, je crois, ici, François-Xavier.
Ouais, merci. Donc ce groupe des six, c'était donc six compositeurs du début du XXe siècle, c'est ça?
Absolument.
Qui étaient donc dans une émulation tout à fait amicale et productive. Alors on écoute tout de suite... deux extraits de cet enregistrement avec deux compositeurs parmi ces six. La première, c'est une compositrice, Germaine Taillefer. Nous écoutons l'arabesque pour clarinette et piano. Et le deuxième morceau sera le troisième mouvement de la sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc, un mouvement très tonique. On écoute tout de suite avec Guillaume Herzferrière et Davide Bandieri.
Thank you. Radio Cité Genève.
C'était l'arabesque de Germaine Taillefer, ainsi que la sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc, deux compositeurs qui faisaient partie de la bande des six, hein, donc compositeurs du début du XXe siècle. Et c'est le titre du CD de Guillaume Herzberger, notre invité d'aujourd'hui, pianiste, et Davide Bandieri, clarinettiste. Alors Guillaume Herzberger, nous avons parlé de vous comme musicien. Mais vous avez dit que vous mettez la plupart de votre énergie dans votre travail de professeur, dans la pédagogie. Alors la question que je pose toujours aux gens comme vous, comment est-ce que vous comptez transmettre ce qu'on vous a transmis et quelles sont vos intentions de pédagogue ?
Alors j'ai écouté avec grand plaisir votre interview de la semaine dernière de mon ami et confrère Christian Chamorel. Nous avons partagé les tabourets de piano de la même classe pendant quelques années chez Christian Favre au conservatoire de Lausanne, ce qui n'était pas encore la haute école de musique au Valais-Fribourg, mais le conservatoire de Lausanne qui menait jusqu'à la fin des études professionnelles. Et puis, oui, j'étais étonné d'entendre à quel point Christian partageait certaines de mon ressenti par rapport à cet enseignement-là. Et cette impression qu'on doit parfois suivre en fait ce qui nous a été enseigné, mais également s'en distancier. Je crois que c'est le plus compliqué en fait pour l'enseignant, c'est de ne pas reproduire, mais de sans arrêt s'adapter à la situation qu'il a en face de lui. Chaque élève est différent, chacun est un défi en soi. Pour revenir à Christian Favre, c'est quelqu'un avec qui j'ai étudié pendant 7 ans. On pouvait à l'époque encore rester assez longtemps chez un professeur. On n'était plus pas encore cadré dans 3 années de bachelor et 2 ans de master au plus. Et je suis entré très très jeune dans sa classe et il m'a accompagné longtemps. Et je pense que j'ai mis bien quelques années avant de pouvoir juger de la combien il m'a marqué en fait par cet enseignement-là, tout comme je crois qu'il m'a fallu attendre de devenir papa moi-même pour percevoir ce qui m'a été apporté par mes parents. C'est un petit peu le même processus en fait. Et je dois avouer que maintenant j'ai une immense estime pour Christian Favre, et non seulement pour le pianiste, pour le grand musicien qu'il est, mais aussi pour cet apport pédagogique. Et je constate presque chaque jour en fait les influences qu'il peut avoir sur mon enseignement. Pour revenir à la question, je pense qu'avant tout chez moi l'enseignement c'est une question d'énergie, de transmission d'une passion. J'essaye de ne pas m'enfermer dans des théories pédagogiques ou dans des schémas préconçus. Tout comme j'essaye de ne pas imposer des interprétations, de ne pas formater mes élèves. Je pense que c'est une de mes grandes satisfactions, c'est de voir à quel point ils peuvent conserver leur propre manière de s'exprimer. Mon seul rôle, en fait, est encore une fois, de les mettre en valeur.
Alors, Christian Favre, votre grand professeur dans les années 90, c'est ça ?
Absolument, dans les années 90, même si je fais le calcul, oui, c'est à peu près ça, même un tout petit peu avant.
C'est donc une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et vous avez choisi comme extrait quelques morceaux de ce Christian Favre, hein, qui est aussi un grand pianiste. Et puis, il est tout à fait dans le thème de l'émission, c'est 4 pièces tirées des Scènes d'enfants de Robert Schumann. Et donnons les titres hein, pour les plus germanophiles d'entre nous. Traumerei, qui veut dire rêverie, am Kamin, devant la cheminée. Ritter vom Steckenpferd, ce qui veut dire les chevaux de bataille, je crois. C'est un peu plus compliqué. Et Fast zu Ernst, presque trop sérieux. Alors ça risque pas de nous arriver. On écoute tout de suite ces 4 pièces des Scènes d'enfants de Robert Schumann par Christian Favre.
Radio Cité Genève.
C'était quatre pièces tirées des scènes d'enfants de Robert Schumann par Christian Favre, qui était le professeur de notre invité d'aujourd'hui, Guillaume Herzberger, pianiste, mais aussi directeur de festival, festival au pluriel. Vous êtes directeur et fondateur du week-end musical de Puyi, dans le canton de Vaud, c'est à côté de Lausanne, et depuis peu, vous êtes le directeur artistique du festival Lavo Classics, après avoir pendant plusieurs années assuré la programmation du Festival Off. Alors commençons d'abord avec votre bébé, hein, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Donc le week-end musical de Puyi, comment est-il venu au monde ?
Absolument, vous êtes complètement dans le sujet, François-Xavier. C'est effectivement mon bébé, le WEMP, comme on l'appelle. Déjà, c'est une affaire qui ne se limite pas à ma propre initiative. Je l'ai fondée avec celle qui est, depuis l'année de la création du festival en 2013, ma compagne, et maintenant également la mère de mon petit Lucien. Et donc c'est une affaire de couple, ce week-end musical de Puyi. À la base, je souhaitais en fait pouvoir proposer à mes élèves d'autres occasions de jouer que l'habituelle audition de fin d'année ou celle de Noël, et donc les sortir de leur salle d'audition habituelle pour goûter un peu d'autres sensations de concert. Et puis il s'est vite avéré que trouver une salle, louer un piano et puis organiser ce genre de choses en extérieur, ça demandait un petit peu d'organisation et un petit peu de sous. Donc j'ai organisé quelques concerts dans une salle à Puyi, et j'ai invité quelques jeunes musiciens très prometteurs pour faire ces concerts en ma compagnie, et c'était en fait la première esquisse du week-end musical de Puyi, déjà en 2008. Puis après, j'ai encore organisé un week-end en 2010, un peu sous la même forme, avec toujours cette volonté de promouvoir en fait l'excellent travail de formation qui se fait dans la région, non seulement quelques-uns de mes élèves que je souhaitais mettre en avant, mais également des élèves d'autres collègues, d'autres institutions. Et 2013, c'est le premier week-end musical de Puyi sous sa forme actuelle. Et depuis, on en est maintenant à la 8e édition en 2020. Et le festival a petit à petit grandi. Et puis, c'est donc à la fois une série de concerts, un festival, mais également un atelier pédagogique, dans le sens où il est entièrement organisé par une équipe de jeunes, pour la plupart des musiciens qui ne vont pas forcément faire leur métier, encore que certains sont sur une belle voie pour cela, mais des gens pour qui la musique est importante et qui peuvent ainsi voir un peu l'envers du décor et puis contribuer, donner aussi une justification au travail qu'ils ont fait à l'instrument. Ils m'ont parfois supporté pendant plusieurs années. Et inversement, sans viser forcément une carrière de concertiste, mais le fait de pouvoir mettre la main à la pâte pour organiser un festival, ça donne aussi du sens à cette démarche. Et puis je pense que, bien sûr, il faut faire jouer les musiciens, mais il faut aussi créer et former le public de demain. Et c'est pour moi un des principaux objectifs du week-end musical de Puyi.
Vous parlez beaucoup des jeunes musiciens, et vous avez la réputation d'être un directeur de festival très engagé auprès des artistes locaux et auprès des jeunesses musicales. Quelle est votre vision, qui est quasiment une vision politique quelque part? Et est-ce que vous pouvez ensuite décrire l'ampleur du festival Lavo Classics? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous comptez calquer cette vision dans un festival qui a un tout autre ordre de grandeur?
Oui, absolument. La démarche est complètement différente. Lavo Classics est un festival de grande tradition, avec, je crois, déjà 18 éditions au compteur, avec de très belles programmations. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir en assurer la programmation du festival Off depuis 2017, et depuis cette date-là, c'est vrai que c'était un de mes soucis principaux, c'est de permettre d'établir des passerelles, en fait, entre les études musicales, qu'elles soient amateurs ou pré-professionnelles ou sur la fin des études professionnelles, et une passerelle vers les scènes des festivals helvétiques qui, à mon goût, ne donnent pas assez de place aux musiciens locaux. Alors, je ne parle même pas de musiciens suisses, mais les musiciens qui sont formés chez nous, quelle que soit leur nationalité. Je trouve qu'ils sont assez peu mis en avant. On prend peu le risque, en fait, de leur donner vraiment leur chance. Je le fais beaucoup au week-end musical. J'ai essayé de le développer aussi avec le festival off du Lavaux Classique. Je vais pas tout chambouler à Cuilly. Je pense que le public a besoin de diversité. Et les jeunes d'ici ont aussi besoin de l'exemple des grands musiciens d'ici et d'ailleurs. Mais c'est une de mes préoccupations principales, oui, de mettre en valeur à la fois les jeunes musiciens, mais aussi leurs formateurs.
Je crois que vous avez beaucoup aidé une famille de musiciens de Puyi, hein, donc c'est là pour faire plus local, c'est difficile. Et vous avez choisi un extrait du violoncelliste Constantin Macherel de son dernier enregistrement. Est-ce que vous voulez présenter ces musiciens? Vous m'avez dit que vous les avez vus grandir, en tout cas musicalement, ça doit être un privilège.
Absolument, c'est le terme qui me vient, c'est le terme de privilège, de pouvoir participer, alors même, je dirais même pas contribuer, mais participer à cette évolution de musiciens, et puis d'en découvrir certains dès leurs premiers pas musicaux, parce que j'exerce également la fonction d'accompagnateur, que ce soit à Puy ou à Lausanne, et j'accompagne de très très jeunes élèves, certains qui font leurs premières notes, et puis je pense que dès ces instants-là, on peut déjà percevoir certains signes, en fait, de véritable tempérament musical. C'est ce qui m'est apparu avec Constantin, qui à l'époque avait une réputation de caractère difficile, et ça s'est confirmé en fait par la suite. J'ai beaucoup d'affection et d'estime pour Constantin, mais c'est quelqu'un qui est absolument entier. C'est aussi ce que j'aime chez les musiciens en général. Il est absolument pas dans un formatage, et je souhaite vraiment que ça puisse servir à sa carrière. En tout cas, le CD qu'il a sorti très récemment, de musique virtuose de Rossini, de Boccherini, Servet, Franck Homme, montre une très très belle nature musicale. Et vous l'avez dit, c'est une famille de musiciens. Il y a également sa sœur Elena, qui est flûtiste, alors qu'il y avait un caractère tout différent, qui montrait aussi déjà ces signes-là très très jeunes de tempérament musical hors norme. Et c'était un plaisir de pouvoir les accompagner, de les retrouver de temps en temps sur scène pour jouer avec eux.
Est-ce qu'on peut dire que des frères et sœurs musiciens seront aussi différents dans la musique qu'ils peuvent l'être dans la vie?
Alors certainement, les répétitions avec Elena sont très différentes de celles avec Constantin. Je me souviens comment dire, la température a chauffé parfois avec Constantin aussi, parce qu'on se connaît très très bien depuis de nombreuses années, et donc on n'a plus cette retenue qu'on peut avoir avec un musicien qu'on rencontre pour la première fois. Je me souviens notamment d'un grand duo de Galina Ustvolskaya. C'est déjà une musique très très complexe, très très âpre, qui va chercher un peu dans le très fond des tripes. Et là, une heure avant le concert, je crois qu'on a eu une belle prise de tête les deux, et ça avait donné finalement lieu à un très beau concert.
Et oui, la musique a rapidement échauffé les esprits. Écoutons tout de suite donc de ce violoncelliste Constantin Macherel un extrait de son dernier enregistrement, le troisième mouvement du concerto en ré de Boccherini. Thank you.
Cité Genève.
C'était le troisième mouvement du concerto en ré de Boccherini pour violoncelle joué par Constantin Macherel. Depuis, comme vous, Guillaume Hersperger, pianiste et directeur de festival. Nous allons maintenant, on a beaucoup parlé de localité, nous allons faire un grand saut géographique pour aller dans une contrée lointaine, un autre continent, le Vietnam. Alors pourquoi le Vietnam ? Parce que, Guillaume Hersperger, vous êtes aussi un véritable pratiquant des arts martiaux. Je crois que vous avez même le niveau d'instructeur, en tout cas, on peut dire quasiment professionnel. Et l'art martial que vous avez choisi, c'est le Vo Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Oui, c'est arrivé tout à fait par hasard, en fait. J'ai, comme beaucoup d'enfants, pratiqué le judo quand j'étais petit, et ça m'a très vite saoulé. Et on a suivi une rupture avec le sport assez manifeste pendant de nombreuses années. Puis à un moment donné, il me fallait un équilibre. Je crois que Christian parlait de la même chose, en fait, la semaine dernière. Alors on a suivi des chemins un petit peu différents pianistiquement, hein, peut-être avec une mentalité qui n'est pas tout à fait la même. Il est peut-être plus porté vers le répertoire de soliste. Je suis probablement plus discret. Je passe plus facilement dans les couloirs étroits que lui avec son impressionnante carrure. Voilà, en ce qui concerne le Vo Vietnam, j'ai eu besoin d'un équilibre à un moment donné pour contrebalancer ce rôle de pianiste. Quand j'ai commencé ces cours d'arts martiaux, c'était assez, en fait, à rebours de ce à quoi j'étais habitué. Et en même temps, j'ai eu mes qualités de pianiste, le certain goût du travail bien fait, le fait de devoir reprendre sans arrêt les mêmes passages. Finalement, on le retrouve dans la pratique des arts martiaux. On n'a rien sans rien. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, en fait, dans la pratique des arts martiaux. C'est de ne jamais baisser les bras. Donc, le Vo Vietnam, c'est un art martial traditionnel, dans lequel il n'y a pas de compétition. Mais par contre, il y a énormément de combats. J'ai pratiqué cet art martial maintenant depuis une quinzaine d'années. Je suis devenu professeur en 2003 et puis ensuite membre de la Commission technique nationale. J'ai fait de nombreux voyages au Vietnam pour enrichir cette pratique et puis pour l'inscrire aussi dans une connaissance du pays, des gens et de leur culture.
Et concrètement, le Vo Vietnam, c'est un sport de frappe, un sport de projection, un sport technique, un sport explosif,
c'est une discipline qui regroupe énormément d'aspects, aussi bien le travail de la santé, le travail des acrobaties, les frappes évidemment, pieds, poings, coudes, genoux, projection, travail du self-défense. Ça demanderait une vie pour en faire le tour, un petit peu comme la littérature pianistique. Je continue maintenant de le pratiquer un petit peu moins depuis la naissance de mon fils et puis avec mes nombreuses activités professionnelles, mais je pense que ça me sert encore tous les jours et puis j'y reviendrai probablement encore plus intensivement ces prochaines années.
Voilà. Et quelle est la teneur de cet entraînement ? Vous devez vous entraîner tous les jours ? Vous m'avez parlé une fois d'initiation dans la forêt ?
Alors, J'ai pratiqué quotidiennement pendant plusieurs années, mais il m'est arrivé de faire une dizaine d'entraînements dans la semaine. Actuellement, c'est plutôt un quand j'ai le temps. Mais oui, ça demande évidemment, si on veut pouvoir faire le tour de ce travail, y compris le travail des armes traditionnelles, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Initiation dans la forêt.
De stage un peu musclé,
Ah, absolument,
voilà.
oui, on a un...
Ça revient là.
On a un stage annuel en extérieur pendant 2 semaines chaque été, et c'est là en principe que se font les passages du statut d'élève au statut de professeur, avec un examen d'entrée qui est encore très traditionnel. Voilà. Mais dont le contenu
D'accord.
restera tout à fait secret.
Voilà. Très bien, alors Guillaume Hertzberger, vous n'échapperez pas à la question qui tue. Vous êtes pianiste, vous êtes concertiste, chambriste, professeur, vous êtes directeur artistique de tout grand festival, vous êtes un farouche combattant en arts martiaux et un père de famille. Comment souhaiteriez-vous que l'histoire se souvienne de vous?
J'aimerais déjà que mes élèves se souviennent de moi. Certains de ces élèves, ils sont maintenant dans l'organisation du week-end musical depuis. Certains sont devenus juristes, c'est toujours pratique. Voilà, on voit en fait le plan machiavélique à la base, hein, former des élèves pour qu'ensuite ils servent à cette cause que j'espère noble. Mais oui, ça serait la plus grande récompense, c'est que mes élèves se souviennent de moi avec la même affection et le même respect que j'en ai pour mes professeurs.
Merci beaucoup, Guillaume Hertzberger, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Quittons-nous maintenant en dansant avec un morceau de Simon Heggendorn, qui est un compositeur suisse encore trentenaire. Ce morceau s'intitule Siena. C'est pour clarinette, violoncelle et piano. Et cette interprétation est tirée du dernier enregistrement du trio Eclipse. C'est le genre de morceau qui prouve que les Suisses aussi savent très bien faire la fête. En tout cas, jusqu'à 22h. C'était l'émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisat, avec notre invité du jour, Guillaume Hertzberger. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Merci à Olivier Steinmetz pour la production. Et à la prochaine fois sur Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.